Je vous invite, frères et sœurs, à écouter la lecture de la Bible. Trois lectures centrées sur le refus du silence et la protestation. Tout d'abord, ces mots étonnants et magnifiques au livre de Job, au chapitre 13, versets 5 à 19. C'est Job qui parle. Il aurait mieux valu vous taire tout à fait. Vous auriez pu ainsi passer pour des gens sages. Écoutez donc plutôt quand j'exprime mes plaintes et soyez attentifs à ma protestation. Pensez-vous servir Dieu en déformant les faits? Prendrez-vous sa défense à coup de fausses preuves? Montrerez-vous pour lui de la partialité? Prétendez-vous pouvoir plaider en sa faveur? Et s'il vous inspectait, serait-ce bon pour vous? On ne trompe pas Dieu comme l'on trompe un homme. Si vous avez même en secret du parti pris, il aura sûrement un reproche à vous faire. Ne redoutez-vous pas la majesté de Dieu? Vos arguments ne sont que de la poudre aux yeux et vos raisonnements des murailles de boue. Taisez-vous devant moi, à mon tour de parler, et peu importe alors ce qui m'arrivera. Me voilà prêt à tout, même à risquer ma vie. Que Dieu me tue s'il le veut, je n'ai plus rien à perdre. Mais devant lui, je veux défendre ma conduite. Et si j'y réussis, ce sera ma victoire, car Dieu n'admet personne de mauvaise foi. Écoutez sérieusement ce que j'ai à dire. Ouvrez vos oreilles à mes explications. Eh bien, je me prépare à aller jusqu'en justice et j'ai la conviction que je suis innocent. Dès lors, qui osera contester mon bon droit? Je suis prêt, si j'ai tort, à me taire et à mourir. Dans le récit des rameaux, selon l'évangile de Luc, au chapitre 19, les versets 35 à 40, un extrait du récit des rameaux. Ils amenèrent un ânon à Jésus. Ils jetèrent leur manteau sur l'animal et y firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Tandis qu'il approchait de Jérusalem, par le chemin qui descend du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, pleine de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Que Dieu bénisse le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire à Dieu ». Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus « Maître, ordonne à tes disciples de se taire ». Jésus répondit « Je vous le déclare, si eux se taisent, les pierres crieront ». Enfin, au livre des Actes des Apôtres, au chapitre 18, les versets 9 à 10 qui concernent Paul à Corinthe. Une nuit, Paul eut une vision dans laquelle le Seigneur lui dit « N'aie pas peur, mais continue à parler, ne te tais pas, car je suis avec toi. Personne ne pourra te saisir pour te faire du mal, parce que nombreux sont ceux qui m'appartiennent dans cette ville. » Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur notre sentier. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, chers amis, à chanter, dans le prolongement de ces lectures bibliques, le cantique 250, les strophes 1, 2, 3 et 4 du cantique numéro 250. Recueillons-nous dans la prière. Éternel, en cette heure, accorde-nous le silence. Non pas le silence qui me rend prisonnier de moi-même, mais celui qui me libère et m'ouvre des espaces nouveaux. Non pas le silence de la peur des autres et du monde, mais celui qui me rend proche de tout homme et de ta création. Non pas celui de l'égoïsme froid, indifférent et hautain, mais celui qui enracine, fortifie et purifie la tendresse du cœur. Non pas le silence de l'absence, du monologue, mais celui de la rencontre, de l'intimité en ta présence. Non pas le silence de la nuit et du désespoir, mais celui qui attend la lumière de l'aurore et de l'espérance. Non pas le silence du bavard, rempli de mots de lui-même, mais celui du cœur qui écoute le murmure de ton esprit qui éclaire pour nous ta parole. Chers frères et sœurs, chers amis, il me faut ce matin conjuguer deux choses. D'abord, une prédication qui est la troisième et dernière d'un petit cycle de prédications-conférences, de prédications à thème consacrées au protestantisme. Et d'autre part, bien entendu, la fête des rameaux. C'est la raison pour laquelle j'ai placé la prédication de ce matin sous l'égide de cette réponse de Jésus aux pharisiens qui lui demandent de faire taire ses disciples qui l'acclament, et il leur déclare de manière magnifique: si eux se taisent, les pierres crieront. Nous vivons, nous le savons tous, je suppose, le 500e anniversaire de la naissance de Calvin. Nous vivons cela avec une certaine emphase, mais il faut nous réjouir que pour une fois, la toute petite minorité protestante, 1,5% de la population française, soit à la une des médias religieux et même parfois non religieux. Cela dit, pour équilibrer les choses, il me semble important de vous recommander très vivement la lecture du petit livre de Bernard Raymond, le pasteur qui a prêché souvent ici même, professeur et doyen honoraire de la faculté de théologie protestante de l'Université de Lausanne, qui a le titre suivant, « Le protestantisme et Calvin », et un sous-titre très significatif, « Que faire d'un aïeul si encombrant ?» Calvin a marqué l'histoire religieuse, et plus particulièrement celle du protestantisme. Il a été un théologien d'une envergure exceptionnelle. Et on oublie de le dire parfois, il fut un écrivain d'une rare qualité. Je me rappelle que quand j'étais à la faculté des lettres de l'Université de Lausanne, Gilbert Guisan, pas du tout croyant d'ailleurs, qui était professeur de littérature française et de l'histoire de la langue, dans son cours consacré au XVIe siècle, disait que Calvin était le meilleur écrivain du XVIe siècle. Mais nous le savons bien, il ne faisait pas bon vivre à Genève du temps de Calvin. Et nous rappelons, bien sûr, le fameux bûcher de Michel Servet, condamné pour hérésie, brûlé vif, le 27 octobre 1553. On nous dit qu'il fut condamné par le petit conseil de Genève, les magistrats, comme pour disculper Calvin, mais Calvin était à l'instigation de ce procès et tout s'est déroulé sous sa responsabilité. On reprochait à Michel Servet trois hérésies et nous sentons comme les distances et les siècles changent la donne. Parce qu'aujourd'hui, on ne condamnerait même pas toujours en parole quelqu'un qui souscrirait à ce que l'on estimait être alors des hérésies. Bien sûr, on le sait, Calvin reprochait à Michel Servet de s'opposer à la doctrine de la Trinité, comme la plupart d'entre nous ici le faisons, estimant qu'une certaine doctrine de la Trinité met en question la foi en un seul Dieu et ce fort aspect d'un monolithisme divin. Nous reconnaissons Dieu, nous reconnaissons le Fils, nous reconnaissons le Saint-Esprit, mais nous n'enfermons pas Dieu dans une doctrine dont les fondements bibliques sont pour le moins fragiles. On reprochait deux autres hérésies à Michel Servet. Il s'opposait au baptême des enfants, défendant un baptême de croyants, et les réformateurs tous, même Zwingli, ont été impitoyables, terribles, intraitables avec ceux qui s'opposaient au baptême des enfants. Mais aujourd'hui, nous savons bien que les baptistes sont reconnus dans la tradition réformée et qu'ils sont même aux États-Unis la très grande majorité. Martin Luther King était baptiste. Et Karl Barth, un théologien réformé suisse du XXe siècle, restaurateur d'une certaine orthodoxie réformée. Dans ce XXe siècle, Karl Barth, dans le dernier volume de son immense et océanique dogmatique, le volume 26, consacre la majorité de ses réflexions à attaquer, lui réformer, le baptême des enfants, à montrer que ses bases scripturaires sont fragiles, pour ne pas dire théologiques et sociologiques. Et puis, Servet s'opposait à la doctrine de la prédestination telle qu'elle était défendue par Calvin. Voici ce que Calvin écrit dans sa monumentale pensée, réflexion dogmatique, l'institution de la religion chrétienne. C'est le livre troisième. Nous appelons prédestination le conseil éternel de Dieu par lequel il a déterminé ce qu'il voulait faire de chaque homme. Car il ne les crée pas tous en pareille condition, mais ordonne les uns à la vie éternelle, les autres à l'éternelle damnation. Ainsi, selon la fin pour laquelle est créé l'homme, nous disons qu'il est prédestiné à la mort ou à la vie. C'est pour ça qu'on parle de double prédestination, à la mort d'une part ou à la vie d'autre part. Donc, avant notre naissance, Dieu a décidé si nous serions sauvés ou perdus. Et plusieurs pages plus loin, Calvin, pour conclure ses réflexions, mais il y reviendra souvent, écrit ces mots révoltants. Dieu suscite les réprouvés afin d'exalter en eux sa gloire. Voilà. Les réprouvés sont l'expression de la toute-puissance de la volonté divine. Alors on nous dira, comme on le dit souvent, que Calvin a beaucoup insisté sur cette double prédestination dans ses ouvrages, mais qu'il ne l'a pas véritablement abordée dans ses innombrables prédications. Et on veut voir là le fait qu'il n'y croyait pas vraiment. Ce n'est pas vrai. Il y croyait dur comme fer. Mais imaginez que je vous dise ce matin, c'est quand même un peu gênant et honteux. Et c'est pour cela qu'il ne le faisait pas, chers frères et sœurs, chers amis. Une grande partie d'entre vous rôtira définitivement en enfer et vous n'y pouvez rien. Soyez de toute façon heureux que Dieu en sauve quelques-uns. Alors, un réformateur, un humaniste presque seul, a protesté contre ce bûcher de Michel Servet, il est trop peu connu, c'est Sébastien Castellion. Il était alors réfugié à Bâle. Il avait été appelé par Calvin lui-même à Genève pour diriger, il en était le régent, comme on disait alors, le collège de Genève. Et à la suite de différends déjà théologiques avec Calvin, et surtout à la suite du fait qu'il avait été refusé par la compagnie des pasteurs pour être pasteur à Genève, alors que cette compagnie, dans sa large majorité, voulait l'accepter, mais se laissa influencer par Calvin qui s'y opposait, eh bien, Castellion démissionna de son poste et puis, pendant des années et des années, mena une vie errante, très pénible, lui, l'humaniste, exerçant toutes sortes de métiers, souvent manuels, avant d'être accueilli dans la grande ville des humanistes à Bâle, où on lui offrit une chaire à l'université, à l'Académie de Bâle. Castellion est connu pour sa fameuse traduction de la Bible en 1555, qui était à l'époque très novatrice, une traduction en français courant, avec un langage truculent, parfois à la Rabelais. Mais les réformés, à la suite de Calvin, ont fait le blackout complet, total, sur cette magnifique traduction qui n'a été rééditée par les éditions Bayard, qui n'ont rien de protestant, il faut les remercier, en 2005. Calvin a publié, Castellion a publié plusieurs textes dans sa controverse avec Calvin. Entre autres, le traité des hérétiques, le libelle contre Calvin, et dans ses livres, on trouve entre autres une anthologie des citations des théologiens qui vont du 1er siècle au 16e siècle, de théologiens qui ont montré qu'il ne fallait pas condamner les hérétiques, qu'il ne fallait pas les tuer, mais qu'il fallait essayer de les convaincre. Et dans ces citations, il y a des textes de Luther, et ce qui a mis Calvin en fureur, c'est qu'il y a des citations de Calvin, et que Castellion montre par conséquent que Calvin est en totale contradiction avec ce qu'il a écrit. Et Castellion, dans ses ouvrages, estime qu'une vie authentiquement chrétienne est préférable au fait de souscrire à telle ou telle orthodoxie ou à telle ou telle croyance. Il y a dans son œuvre, qui se termine par un livre intitulé « De l'art de douter et de croire », un plaidoyer pour une tolérance religieuse. Et c'est là qu'il écrit ces mots aujourd'hui reconnus, « Tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme. » Et ailleurs, défendant une foi très personnelle, il écrit encore « Qu'il soit loisible à ceux qui croient en Christ de servir Dieu selon la foi, non d'autrui, mais la leur. » D'aucuns vont penser que j'exagère un peu dans cette opposition entre Calvin et Castellion. Pas du tout. J'ai ici un courrier qui m'a été envoyé par le pasteur Vincent Schmitt. Il est le pasteur aujourd'hui de la cathédrale Saint-Pierre à Genève où prêchait Calvin. Il est un de ses successeurs. À la fin de son courrier, lui estimant que les manifestations et les célébrations faites autour de Calvin sont excessives, m'écrit « Béatification quand tu nous tiens ». Mais il ajoute des chiffres. De 1542 à 1546, Calvin était donc à Genève, on comptabilise dans les archives judiciaires de la ville de Genève 58 condamnations à mort. On parle toujours du bûcher de Michel Servet. 58 condamnations à mort en moins de 4 ans. 76 bannissements avec privation de tous les biens. Et pour la seule période du 17 février au 15 mai 1545, un peu plus de 3 mois, 34 bûchers sont dressés à Genève. Et le 6 mars 1545, le directeur de la prison se plaint au petit conseil de la surpopulation carcérale. C'est beaucoup de bûchers, 58, en 3 ans. Il y en a eu d'autres, avant et après. Je cite les chiffres de ces 3 ans-là. Pour une petite ville, car Genève comptait au maximum à l'époque 15 000 habitants. Bien sûr, l'honnêteté m'oblige à dire que dans ces condamnations à mort, il y a ceux qu'on appelle des politiques, des droits communs, mais aussi des délits d'opinion. Et je ne parle pas ici, ce serait trop long, de la fameuse affaire des sorcières de Penet ou de Vandœuvre, condamnées à mort à Genève, et dont Calvin écrit dans une lettre qu'on n'en a pas condamné assez. Si eux se taisent, les pierres crieront. Eh bien, Castellion ne s'est pas tu. Mais puisque nous parlons de pierres qui crient, je voudrais dans un deuxième moment évoquer deux monuments de pierres. Le 27 octobre 1903, au début du XXe siècle, c'est quand même bien tard, on a érigé à Champelles, sur le lieu même où a été exécuté Michel Servet, un monument expiatoire. Il faut s'en réjouir. Une inscription se trouve sur ce monument, très sobre, qui dit ceci. « Fils respectueux et reconnaissant de Calvin, notre grand réformateur, mais condamnant une erreur qui fut celle de son siècle, et fermement attaché à la liberté de conscience, selon les vrais principes de la Réformation et de l'Évangile, nous avons élevé ce monument expiatoire. » C'est très beau de dire qu'on est fermement attaché à la liberté de conscience en affirmant qu'elle se trouve non seulement dans la tradition réformée, mais dans la Bible elle-même. Cela dit, je suis troublé et meurtri, et les mots sont peut-être faibles, quand je vois qu'on dit là, par rapport à Calvin et Servet, qu'il s'agit d'une erreur qui fut celle de son siècle. On a l'air d'excuser la chose, de reprendre d'une main ce que l'on a donné de l'autre et de dire « que voulez-vous, c'était comme ça, on n'y peut rien ». Erreur, en plus, le mot est bien faible, pour un crime sanglant. Non, non, il ne s'agit pas d'une erreur de son siècle. La tolérance est de tous les temps. On trouve de la tolérance dans toutes les civilisations, dans toutes les religions, dans tous les continents, dans la Grèce antique, dans la Rome antique. Comme l'intolérance, elle est aussi de tous les temps. Et nous savons bien que même dans la Bible, il y a des pages scandaleuses d'une intolérance terrible et sanguinaire. Et Jésus, au nom d'une erreur qui était celle de son siècle et de sa religion, aurait-il dû jeter la première pierre à la femme adultère? Aurait-il dû condamner, rejeter, écarter, mépriser la prostituée qui s'invite dans un repas et verse du parfum sur lui? En tout temps, il y a eu des témoins de la tolérance, des témoins du pardon, de la bonté, d'une simple humanité. Et puis j'aimerais parler d'un autre monument, les pierres crieront, c'est celui qui se trouve au chevet de notre temple de l'Oratoire, rue de Rivoli, à la mémoire de l'amiral Coligny, tué en 1572 au moment de la Saint-Barthélemy. Ce monument a été érigé à l'instigation du pasteur Eugène Bercier, fondateur de la paroisse voisine de l'Étoile, et inauguré par lui le 17 juillet 1889. Peu importe l'erreur qui se trouve sur ce monument et qui fait naître Coligny en 1517, alors qu'il est né en 1519, mais là encore, je suis troublé, car je ne sais pas très bien pourquoi et quand. On a ajouté une plaque à ce monument. Elle se trouve posée devant le monument, par terre, à sa gauche, quand on est en face de ce monument, on dit quelques mots là de Coligny, et on dit exactement comme pour Michel Servet et Calvin de Coligny, qu'il fut victime de l'intolérance qui était celle de son temps. Intolérance ? L'intolérance ne signifie pas nécessairement qu'on tue et qu'on massacre les gens. Le mot, là encore, me semble faible pour des crimes sanglants, pour une tuerie, pour des massacres à Paris, rien qu'à Paris. Pour la nuit de la Saint-Barthélemy, il y a eu 4000 protestants tués. Et je ne compte pas tous ceux qui ont été tués en province, parce que ces massacres se sont prolongés dans la France entière pendant plusieurs jours. Intolérance qui était celle de son temps, certes, me dira-t-on, on est en pleine guerre des religions. Mais enfin, les réformés français, une toute petite minorité, n'ont pris les armes que pour se défendre devant une majorité qui les écrasait. Et d'ailleurs, Castelion, dans un de ses livres, dit que c'est tout à fait criminel de prendre des armes pour des causes religieuses. Mais enfin, Castelion a déjà proclamé la tolérance 10 ans avant la Saint-Barthélemy, en 1562. Et il n'a pas fallu attendre le 18e siècle, le siècle des Lumières, auquel nous devons tant, pour voir apparaître de la tolérance. Certes, le 18e siècle a conceptualisé la notion de tolérance religieuse. Mais au moment même de la révocation de l'édit de Nantes, au XVIIe siècle, il y a déjà de grands penseurs, philosophes qui défendent la tolérance. Pierre Bell en France, Locke en Angleterre, William Penn, Quaker, aux États-Unis et en Angleterre. Et Castelion apostrophe magnifiquement Calvin dans l'un de ses livres quand il lui dit « Nous diras-tu à la fin si c'est le Christ qui t'a appris à tuer des hommes ?» Alors, chers frères et sœurs, ce sera ma conclusion, une troisième étape très brève. Tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme. Là, je trouve que Castelion pose très bien le problème de la violence. En l'inscrivant dans une tension dialectique du prochain, un être humain, tuer un homme, un lointain, une doctrine, une idée, quelque chose d'abstrait, comme il le dit. Je crois qu'il faut préférer des hommes avec H minuscule à l'homme avec H majuscule, à l'idée aussi belle, aussi noble serait-elle qu'on se fait de l'homme et de l'humanité future. Il faut préférer des hommes, des prochains. Au nom d'une idée de l'homme, on a tué des hommes. Au nom d'une vérité, avec un V majuscule, prétendument absolue et religieuse, on a tué de prétendus hérétiques. Voyez-vous, en politique comme en religion, la fin ne justifie pas les moyens. Et pour conclure, je vous laisse une citation de Martin Luther King. C'est significatif de le citer dans les contextes actuels. Martin Luther King, à la fin, nous nous souviendrons non pas des paroles de nos ennemis, mais des silences de nos amis. Si eux se taisent, les pierres crieront. Amen.